Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Nolwenn et Joël, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes installés dans une petite tente avec une protection qui est de quel ordre ?
C'est une protection électromagnétique, c'est-à-dire que les ondes ne passent pas à travers le tissu qui est fait d'un alliage de métal. On dirait une protection comme un baldaquin de moustique, mais en fait ça protège des ondes.
Vous-même avez cette sensibilité ?
Oui, voilà, je voulais présenter ça aux gens qui passent parce que moi, ça me change la vie. Quand je fais attention aux ondes, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai plus de mémoire, j'ai beaucoup moins d'allergies. Avant, je ne supportais pas de toucher un chat. Maintenant, j'ai plus du tout ce genre de problème. Enfin, ma santé générale s'améliore quand je fais attention à mon environnement électromagnétique.
Joël, à quel moment vous avez pris conscience de ces ondes électromagnétiques et l'influence qu'elles avaient sur vous?
En fait, j'en avais déjà conscience parce que j'avais déjà acheté des appareils il y a une quinzaine d'années et bizarrement, j'ai pas compris l'évolution, j'ai pas compris, je faisais attention aux ondes basse fréquence, aux antennes un peu, mais j'avais pas compris que les téléphones en fait avaient changé avec le temps et avec les nouvelles fonctions, le Wi-Fi, les données. Ça émettait beaucoup plus et du coup j'ai arrêté de faire attention à ça. Je me suis dit j'avais contrôlé chez moi, c'était bon, voilà. Et j'ai recontacté ça parce que quelqu'un de proche de moi est tombé malade, pouvait plus se lever le matin, avait des grosses difficultés de santé. Et son médecin lui a dit, et entre autres avait de l'arythmie cardiaque, et son médecin lui a dit, écoutez, je vois pas ce que vous avez, mais ça pourrait être ça. Et en fait, ça l'a sauvé. Et du coup, j'ai pris conscience que moi aussi, j'avais des symptômes, qu'il fallait que je fasse attention, et je fais très, très attention maintenant.
Alors, cette prise de conscience, comment l'avez-vous reconnue? Comment l'avez-vous découverte?
Alors, comme je le disais, donc c'est grâce à cette personne c'est ce médecin en fait qui a informé. Mais pour moi, ça a été très difficile de l'admettre. C'est-à-dire que pendant des mois, j'y pensais un peu, mais je me disais c'est les autres, c'est pas moi. Enfin, c'était pas possible que moi je sois hypersensible. Ça me semblait impensable. Et puis, en faisant des tas de correspondances, je me suis rendu compte que quand je restais 2 heures dans un restaurant blindé avec des gens à leur téléphone, etc., après, je me sentais un peu bizarre, un peu stressé, le cœur qui battait plus vite, des fatigues. Enfin, j'ai fini par faire des tas de liens. Et un jour, et aussi dans le TGV, ça a été aussi une découverte, c'est très fort en TGV. Et j'ai fini par me dire, ben moi aussi. Et il faut que j'aie le courage de me dire, moi aussi.
Les symptômes, quels sont-ils? Et est-ce que c'est vraiment handicapant pour le quotidien ?
En fait, les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça impacte tout le monde. Mais quelqu'un qui a des symptômes, c'est quelqu'un qui est déjà allé trop loin et qui va mal. Et il y a des choses à réparer dans le corps. C'est-à-dire qu'on s'expose toute la journée. Et si on est dans un environnement sain la nuit, le corps se répare. Et du coup, le lendemain, il peut repartir et on ne voit pas de symptômes. Mais si tous les jours, finalement, il ne peut pas suffisamment se reposer, par exemple la nuit, il finit par avoir des séquelles. Et c'est là qu'on va avoir des symptômes comme de la fatigue. Puis si c'est un peu plus grave, ça va être le cœur qui bat un peu trop vite, donc de la tachycardie. Ça peut être une moins bonne mémoire. Il y en a qui ont des fourmillements quand ils touchent, par exemple, leur téléphone, des fourmillements dans les doigts ou voilà, des choses au niveau de la peau. Et voilà, ça peut agir à plein de niveaux différents.
Des maux de tête, des vertiges, du mal à dormir, effectivement, tout le système cognitif qui est, comme tu le disais, on a du mal à se rappeler les choses, on oublie. Moi, c'est principalement maux de tête, vertiges et fatigue. Ça, c'est le quotidien de tout le monde. Tout le monde se pose la question, mais j'arrive pas à dormir, mais ils ont peut-être la Wi-Fi dans la maison. Et ils ne se rendent pas compte que la pollution et le mal de ce qui les empêche de dormir, c'est peut-être parce que justement il y a la Wi-Fi qui est encore allumée dans la maison. Et c'est pour ça que nous, on voudrait informer en disant attention aux personnes, la pollution, elle vient aussi de chacun. Elle vient de votre téléphone portable qui est sur votre chevet. Peut-être que si vous n'arrivez pas à dormir, peut-être que si vous avez mal à la tête, peut-être que si vous n'arrivez pas à récupérer. Et après, ça, c'est les premiers symptômes. Mais après, une fois qu'on n'a pas écouté ces symptômes-là, c'est des maladies plus importantes. Plus invalidantes, c'est des cancers, c'est des personnes qui ne peuvent même plus venir en ville pour faire leurs courses et qui sont obligées d'aller vivre et comme des reclus dans des forêts, dans des petits villages isolés, sachant qu'on connaît des personnes qui vivent dans des villages isolés qui sont quand même pollués parce qu'il y a une antenne relais à côté. Donc on ne sait plus, en fait, les personnes qui sont électrosensibles ne savent plus où aller pour se protéger.
Mais on peut quand même, parce que pour les gens normaux, il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont beaucoup plus sains que d'autres. C'est-à-dire qu'on peut faire attention. Souvent, on nous dit, oui, mais de toute façon, on s'en fiche parce qu'on ne peut rien faire, on n'y peut rien, il y en a partout. En fait, non, il n'y en a pas partout. Pour ceux qui sont déjà gravement sensibles, oui, il y en a partout. Mais pour les gens normaux, faire attention entre le téléphone à côté de soi la nuit et la Wi-Fi ou pas, ça fait une différence énorme. Parce qu'en fait, dans les maisons, c'est assez sain s'il n'y a pas nos propres pollutions.
C'est assez sain si on a une maison à la campagne, loin de tout, mais si on vit en HLM, si on vit avec des voisins à droite, à gauche, ça veut dire qu'il y aura le Bluetooth, il y aura le téléphone sans fil DECT, il y aura les téléphones portables, il y a l'antenne relais des consorts. Donc ce qui fait que les pollutions, elles sont partout. Après, le message qu'on voudrait donner, c'est soyez déjà alertés qu'il y a ces ondes qui ne sont pas visibles, mais qu'on peut, nous, les mesurer. On les mesure, donc ce n'est pas inventé. Ça se mesure, c'est facile à mesurer.
Nous allons en parler de ce petit appareil là que vous avez en démonstration. Juste aux auditeurs, et chacun peut en faire l'expérience, c'est pour se connecter sur Internet chez soi. On peut voir sur les réseaux qui sont accessibles à notre ordinateur, on peut vite se rendre compte qu'on a 4 ou 5 fréquences qui arrivent chez nous. Donc il y a multiples faisceaux qui passent nos logements.
Alors, quand le téléphone capte un réseau, il suffit de très peu d'ondes, en fait, pour capter « Ah, bah, il y a le Wi-Fi de la voisine, etc. » ou « Je peux capter Internet ou la téléphonie mobile. » Mais ça ne veut pas dire que c'est des quantités dangereuses. Voilà. Le téléphone est très, très sensible, en fait. Nous, on l'est moins. Mais par contre, un téléphone qui, lui, est en train d'appeler ou en train de se connecter à l'Internet, par exemple en données mobiles, là, par contre, lui-même, il émet énormément. Et c'est des quantités qui, là, deviennent dangereuses pour la santé. Mais si on capte le Wi-Fi du voisin de loin, on ne sait pas s'il est suffisamment proche ou pas pour nous impacter. Voilà, dans ce cas, il faut l'appareil de mesure pour savoir la quantité.
Moi, j'aimerais dire un mot des protections, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'on est voué à subir le Wi-Fi du voisin. Il existe vraiment plein de sortes de protections. Il y a du papier peint anti-ondes, il y a des peintures anti-ondes, des tissus qu'on peut mettre à l'intérieur des cloisons, on peut faire plein de choses. Donc on n'est pas du tout voué à subir les ondes. Ça, c'est très important de le dire. Les gens pensent qu'on ne peut pas faire autrement, mais ça, c'est faux.
Tu dis qu'on peut se protéger, effectivement, mais ça coûte énormément cher. Quelqu'un qui veut se protéger, c'est des budgets énormes. Par exemple, si on veut porter un bonnet anti-ondes, c'est entre 80 et 100 euros. Si on veut une chemise, c'est 200-250 euros. Si on veut un lit à baldaquin pour se protéger la nuit, c'est 1000 euros. C'est des sommes que tout le monde ne sont pas capables de faire. Et c'est vrai que si chacun était informé dans sa propre maison qu'il se polluait lui-même, par sa Wi-Fi, son Bluetooth, par le babyphone, par son téléphone portable, et qu'il éteignait, il pensait éteindre tout ça la nuit parce qu'on n'a pas besoin forcément de l'ordinateur allumé, on n'a pas besoin de la Wi-Fi la nuit. Si chacun pensait déjà à éteindre, déjà il ne se polluerait pas lui-même et il ne polluerait pas ses voisins. Et ça permettrait déjà à ceux qui ne sont pas fortunés de pouvoir dormir et récupérer un peu la nuit.
Je reviens un peu sur les protections. Nous sommes dans cette tente avec ce tissu anti-ondes. Il y a un développement justement économique autour de cet aspect de protection et auquel vous prenez part.
Alors, c'est sûr que comme il y a de plus en plus de gens sensibles, le marché fonctionne. Donc oui, nous, on a été clientes, on a acheté des protections et on en est contente parce qu'on va beaucoup mieux. Maman, elle veut peut-être parler, elle va mieux.
Oui, alors le tissu qu'on a autour de nous, là, c'est vraiment le top. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même suffisamment transparent. On voit bien dehors et en fait, c'est en acier, en fait, en acier inox. Donc ça résiste à l'eau, ça ne rouille pas, etc. Donc c'est vraiment le top. Donc ça, c'est 20 euros le mètre carré. Mais on peut trouver des protections moins parfaites autour, deux fois moins chères. Ça reste quand même au moins 10-12 euros le mètre carré.
Comment avez-vous eu connaissance justement de ce matériel ?
Alors là, c'est facile. Il y a quand même un grand site. J'ai pas d'action sur ce site. Il y a un grand site. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment le principal parce qu'il regroupe à la marge énormément de matériel de tout ordre, que ce soit des machines, par exemple ce Cornet, là, l'appareil que j'ai là dans la main, ça, c'est un Cornet, c'est vraiment incroyable, il faudrait que tout le monde ait cet appareil.
Ça, c'est un investissement de l'ordre de combien ?
195 euros. Mais ça dit tout, même les ondes basse fréquence, c'est vraiment. Enfin, nous, on ne peut pas sortir sans ça, on ne sait pas, on ne peut pas savoir s'il y a des ondes ou pas. Parce qu'il y a des gens qui le sentent tout de suite, mais ce n'est pas notre cas. Et donc, il propose tout ce qu'on peut imaginer comme protection au niveau des connexions, de mettre à la terre son PC, ses chargements de téléphone, des tissus, un peu de vêtements. Alors, par contre.
C'est géotellurique, le site sans question.
Géotellurique.com, voilà. Mais par contre, il y a d'autres sites qui sont spécialisés dans les vêtements, donc il y a vraiment un grand choix de vêtements. C'est vrai que c'est cher, mais on peut aussi s'en inspirer et se les faire soi-même à partir du tissu, ce qui coûte beaucoup moins cher.
On s'est cousu une nous. On achète juste du tissu et après on le coud.
C'est du tissu, donc vous produisez vos propres vêtements avec ça. Élastique. Est-ce que donc vous êtes structuré en association qui s'appelle comment ?
Les Électrondes, c'est une association qui vient de se monter dans le Diwa, voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était suffisamment nombreuses et nombreux à connaître le sujet, et à s'y intéresser, et à vouloir informer les gens.
Et dans ce cas-là, actuellement, vous êtes combien de personnes ou adhérentes de cette association ?
On est une quinzaine. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont trop, trop malades pour revenir. Et il y a aussi des gens qui sont pas du tout, qui ne sentent pas, qui ne se disent pas sensibles. Mais tout le monde sait qu'en fait, on est sensible, même si on n'a pas de symptômes conscients. Donc il y a un peu de tout. Ce n'est pas une association d'électrosensibles, ou d'électro-hypersensibles. C'est une association de gens qui se sentent concernés par la question, qui sentent que c'est omniprésent, de plus en plus fort, de plus en plus dangereux. Et voilà, qui souhaitent faire quelque chose au niveau du Diwa pour ça.
Alors, il y a une vingtaine d'années déjà, avec les premiers émetteurs pour téléphonie, il y avait l'association Robin des Toits à Paris qui a demandé justement à une baisse de puissance de ces émetteurs et de pouvoir peut-être les multiplier pour agir moins fort sur la population. Est-ce que cette association a fait des petits ? Est-ce qu'il y a aussi une implantation locale ?
Alors, l'association Robin des Toits, c'est une association extrêmement importante qui continue aujourd'hui, qui fait un travail de dingue au niveau des antennes. Mais eux, ils sont très spécialisés sur les antennes. Alors, c'est un sujet vraiment, vraiment délicat dont Michel Rivasi s'était emparé. Et elle a échoué, hélas, à part informer, ça c'était super, mais elle a échoué sur le plan pratique, elle a échoué à faire en sorte que les maires puissent interdire l'implantation d'une antenne. Au contraire, on nous a retiré ce droit, on leur a retiré ce droit, a essayé de créer un lieu pour électrosensibles très gravement atteints, ça a échoué aussi. Enfin, tout ce qu'elle a essayé de faire, ça a échoué, pourtant elle a vraiment mis de l'énergie.
Parce qu'il y a beaucoup de lobby là-dedans, parce que ça rapporte énormément d'argent. Le sans-fil, ça apporte énormément d'argent. Pouvoir tout faire, parce qu'il y a des alternatives. On peut avoir Internet sur son téléphone, et même sur son ordinateur, mais aussi sur le téléphone, avec un câble. Moi, je suis reliée à ma box en câble. Voilà, mais tout le système sans-fil, avoir maintenant même les montres qui émettent, des ondes et tout ça, ça rapporte tellement d'argent. Que du coup c'est difficile de faire bouger les lignes et de dire attention c'est dangereux puisque derrière il y a du lobby.
Il y a le fait que vous soyez une quinzaine hein, actuellement, est-ce qu'il y a une fréquence de rencontres, de réunions entre vous ?
On fait une réunion par mois à peu près. Justement pour voir les actions qu'on va mener. Donc on avait cette action forum pour présenter l'association, en fait c'est la première fois, donc c'est une toute jeune association, au forum. On a une action pour l'instant, on a deux actions en cours, c'est auprès de la Carline et auprès de l'avant-poste. Donc à la Carline ça commence à se constituer, c'est une sorte, devenu une sorte de projet, on est en partenariat avec eux pour essayer d'avertir les personnes et leur demander éventuellement de couper leur téléphone. Et donc faire un affichage à l'entrée, ce qui va rendre en même temps, ce qui va permettre de sensibiliser les gens, mais également de donner une légitimité aux personnes qui sont gênées, qui demanderaient de couper le téléphone.
Le monde médical, quelle est sa position sur ce problème ?
Alors, le monde médical aujourd'hui en France, si on met le mot électro-hypersensible dessus, ils disent le mot n'existe pas. Mais par contre, les gens qui ont les symptômes peuvent être reconnus comme handicapés et disent, bah, en effet, ces gens-là ne supportent pas être à proximité d'eux, à proximité d'une antenne relais, d'un téléphone allumé, d'une Wi-Fi allumée, etc. Donc, c'est reconnu. On peut avoir des dispositifs, donc une RQTH par exemple, et donc ils nous soutiennent financièrement pour avoir des baldaquins ou de ce genre de choses. Mais le mot, par contre, est un petit peu, oulala, non, hyper électrosensible, on ne veut pas que ça existe. Voilà.
Là, on part du DIWA. Est-ce qu'il y a aussi des relations avec d'autres structures comme la vôtre, partout ailleurs en France ou à l'international même?
Là, il y a une autre structure beaucoup plus importante que la nôtre qui s'appelle POEM 26, qui regroupe la Drôme et l'Ardèche. Donc on est en lien avec eux, on va les prévenir, ils vont faire une annonce à tout le monde. Après, pour l'instant, on est tout jeune, donc on n'est pas très nombreux encore. Donc on espère être plus nombreux grâce à ce forum. Mais on espère, oui, on prendra des contacts avec les autres associations. On est beaucoup en réseau, toutes ces associations sont beaucoup en réseau, même jusqu'à la Belgique.
Là, nous sommes dans cet abri. Si vous ressortez, quels sont les symptômes que vous ressentez aussitôt ?
Alors moi, je peux être, par exemple, ne pas le savoir, être dans un endroit très exposé et ne rien sentir vraiment. Et même le soir, par exemple, j'y ai passé 2 heures, je sens rien. Le soir, je suis encore bien. Et le lendemain matin, je me réveille avec des fourmillements dans tout le corps, une fatigue extrême, je ne peux plus bouger, des allergies qui reviennent, j'ai le nez qui coule pour un rien, les yeux qui piquent, le palais qui me démange. Voilà, j'ai des symptômes qui arrivent vraiment le lendemain quand je m'expose.
Ça correspond à divers âges, ce problème d'électrosensibilité ?
Divers ?
À tous les âges ?
Alors là, je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Oui.
Dans vos relations ?
En fait, plus on est exposé, plus on risque de plus le supporter. Donc souvent, c'est des personnes plus âgées. Moi, je suis jeune, mais j'ai été intoxiquée aux métaux lourds. Et là, par contre, les gens qui ont eu ce genre de problème d'intoxication aux métaux lourds deviennent électrosensibles. C'est souvent lié parce que comme avoir des métaux dans le corps, ça fait antenne et ça fait des dégâts qui enlèvent des protections en fait, que le corps a. Donc soit le temps, beaucoup d'exposition, soit comme des séquelles ou ce genre d'intoxication aux métaux lourds.
Justement, le lieu, l'hôpital, avec toute la technologie actuelle, est-ce que vous vous y sentez bien ?
Alors on évite d'y aller, on n'y va pas, mais ce qu'on en sait en tout cas là, de la part d'autres électrosensibles qui n'ont pas eu le choix, c'est que c'est absolument terrible et maintenant dans certains hôpitaux c'est tellement évident que la détresse de certaines personnes qu'ils commencent à mettre en place des protections pour les personnes électrosensibles qui les chambres spéciales, ouais. Pas encore dans le DIWA, mais ça y aura peut-être.
Est-ce que aussi, pour un lieu tel que dit, est-ce qu'il y aurait l'envie d'un lieu précis pour se réunir et qui soit justement et qui vous mette à l'abri ?
Bah nous, par exemple, à l'USCDD de Die, la salle mise à disposition pour faire les activités sportives, elle est nickel. Elle est très très propre, il n'y a pas d'onde. Donc nous, quand on va par exemple danser, on s'inscrit à une activité, on demande aux gens ou à celles qui gèrent l'association, enfin la danse, de demander aux personnes d'éteindre leur téléphone. Si tout le monde accepte, alors on peut rester et là on se sent super bien. Donc il y a plein d'endroits en fait où il n'y a pas d'onde, oui, déjà, qui existent.
Je fais une petite précision, dans la salle de la SCDD, l'espace social, ils ont carrément mis une possibilité de débrancher le Wi-Fi. Donc c'est vraiment super.
À la radio, à RDIWA, c'est pareil, hein, on a débranché le Wi-Fi aussi. On est juste en Ethernet. Les appareils Cornet chez vous, donc j'en vois différents modèles. Quelles sont les différences ? C'est juste les éditions ?
Il y a 15 ans, c'est pour ça qu'il n'a pas le même aspect que celui-ci qui est tout neuf. Mais ils font à peu près les mêmes choses. Hein, voilà. Ils nous donnent donc le chiffre. Donc ici, on est en volts par mètre, combien il y a d'ondes. Et ils nous donnent une petite LED lumineuse, vert, orange ou rouge, pour dire si c'est sain, moyen ou dangereux pour la santé.
Et ça, c'est un appareil que vous possédez sur vous. Et donc, vous l'utilisez à chaque lieu où vous vous rendez.
oui, voilà, quand j'oublie pas de le prendre, je m'en sers et ça m'aide à globalement avoir un espace sain. On s'en sert aussi souvent pour, en fait, des fois, pour trouver une source. C'est-à-dire, par exemple, c'est très très rouge, on voit que c'est dangereux, on cherche d'où ça vient et hop, il y a un appareil, il suffit de le débrancher et voilà, ça repasse à vert. Donc, ça nous permet d'éviter d'être exposé pour rien, un appareil qui ne sert pas, qui était là, mais qui ne sert pas.
L'autre fois, il y a quelques jours, j'ai croisé un électricien qui recherchait justement une alimentation électrique dans un mur et il utilisait un détecteur d'ondes et je suppose que c'est le même type d'appareil.
Oui, alors la situation est complexe parce que en fait les ondes, il en existe de plusieurs sortes. Il y a les ondes haute fréquence, c'est-à-dire c'est tout ce qui est données, les données mobiles, la téléphonie mobile, le Wi-Fi, etc. Et il y a les ondes basse fréquence, ça c'est l'électricité. L'électricité crée une sorte d'onde, elle va moins loin sur, mettons, 50 cm si l'intensité n'est pas trop forte. Les lignes haute tension, c'est tellement fort que les ondes vont plus loin, voilà. Mais c'est plus dangereux pour la santé, mais ça va moins loin. Donc dans ce cas, c'est un autre appareil. On en a aussi un, celui-là il s'appelle Gigahertz. Et il mesure du coup les basses fréquences. Donc là, on peut savoir où il y a de l'électricité.
Est-ce que, ça c'est une question aussi, est-ce que vous mesurez parfois l'alimentation qui, dans certaines qualités, passe par des appareillages? Je sais par exemple qu'il y a certains fruits qui sont irradiés pour les maintenir plus longtemps en conservation. Est-ce que ça vous vient à l'idée de par exemple mesurer des pommes?
Non, on n'a pas essayé. Enfin, après, globalement, quand on mesure des éléments comme ça qui ne sont pas reliés à un système électrique, on ne mesure rien. On ne trouve pas de... Voilà.
Non, c'est uniquement l'origine électromagnétique qui est perçue par cet appareil.
Oui, il y a un courant. Il y a un autre appareil, c'est un multimètre. Donc ça, tout le monde peut y avoir accès. C'est même pas spécialement... voilà, encore un autre.
Celui-là, c'est le problème. Ça, c'est l'appareillage de l'électricien.
Oui, voilà, classique. Donc ça, si tu te branches d'un côté une terre et de l'autre côté à toi ou à la pomme, tu peux voir la tension induite qu'il y a dedans, c'est-à-dire s'il y a un potentiel. Donc c'est pas un courant qui passe, c'est juste un potentiel. Voilà, c'est une autre mesure.
Le potentiel entre soi et la terre. Donc ça, s'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a un courant qui passe entre les deux pôles.
Il n'y a pas un courant qui passe, c'est que...
En tout cas, il y a une différence de potentiel et c'est mauvais pour la santé.
Cette problématique vous a éveillé cet intérêt à vous cultiver aussi sur ce problème. Quels sont les textes ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui vous ont appris des choses?
Oui, on a apporté sur le forum des associations de DIE 5 livres à disposition qui ont été écrits par des gens différents. On a David Bruno, on a Anthony Brun, Maestroni, qui a écrit aussi des livres très intéressants. On a des livres qui ont été écrits par le grand professeur Bellepomme sur Paris, mais qui, en co-écriture avec plein de scientifiques de toute l'Europe, pas que en France. Voilà, donc on a...
À mon avis, le livre le plus incroyable qui a été écrit, c'est celui-là. Donc c'est celui dont vient de parler Nolwenn. C'est vraiment c'est un consortium de scientifiques qui ont réuni leurs connaissances et qui regroupent vraiment toutes les informations. C'est quand même, faut aimer lire, hein, la technique, mais c'est très...
Le livre noir des ondes.
Voilà, le livre noir des ondes. C'est très poussé, mais c'est passionnant. Il y a tout dedans, les symptômes, qu'est-ce que ça fait au niveau biologie, au niveau, il descend très très loin, c'est-à-dire au niveau des organes, au niveau de la cellule, au niveau de la molécule, au niveau de l'atome, au niveau électrique de l'ionisation de l'atome ou pas. Ça va très très loin.
Est-ce que pour vous, il y a sûrement énormément de travail aussi pour faire prendre conscience de cette problématique?
Oui, il faudrait une éducation. Peu de gens sont au courant et ceux qui savent un peu peuvent même avoir finalement peu d'informations. C'est-à-dire que c'est assez complexe et voilà, on a du plus bas, c'est-à-dire on ne sait même pas comment éteindre son téléphone. Il y en a qui ne savent pas parce que les nouveaux modèles, tout ça, jusqu'à voilà, après le plus détaillé, l'impact d'une prise électrique, l'électricité dans la maison, gérer l'électricité dans une maison. Il y a tous les niveaux de connaissances à avoir, mais oui, il manque de toute façon une connaissance générale dans la population.
Comment peut-on vous rencontrer?
On a créé une adresse mail pour l'instant, c'est electronde@proton.ne, c'est tout nouveau. Donc on a une carte de visite avec cette adresse. Pour l'instant, on n'a pas encore de téléphone, on n'est pas encore organisé pour ça. Et puis on va faire des actions régulières probablement sur le Diwa, peut-être des formations, des ateliers comment gérer son téléphone, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour nous joindre, il faut écrire à cette adresse mail.
J'imagine qu'il n'y a aucune visibilité sur Internet. Mais il y a peut-être des associations auxquelles vous avez un intérêt, qui ont peut-être une vitrine.
Poème 26, qui est à Romans. Voilà, dans la Drôme, eux ils sont très avancés et d'ailleurs ils peuvent, si jamais ils nous cherchent, ils peuvent donner l'information.
Et Nolwenn,
Marie-Ange
et Joël, je vous remercie en tout cas toutes les trois de nous avoir donné un peu de temps sur RDWA pour nous parler donc de électrondes.
Les électrons et nous aussi, on vous remercie beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Uncle Sam had come so late when the exploitation.